Radio Campus, il est 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Étape. C'est l'heure de le mettre.
Pas tout de gauche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usines.
Ouais, la révolution par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fais le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues pas
rouges. Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de poste. Je dis tant que vous ne prenez pas.
Aujourd'hui, mercredi 16 juillet, c'est la Saint Moment de Vérité. Saint Moment de Vérité est le saint patron de François Bayrou, un grand spécialiste de la vérité. Enfin, au confessionnal, peut-être. Les Français, ce peuple si fier et si con, un peuple qui a fait la grande révolution, qui a fait un empire colonial, le cassoulet et la choucroute, ceux qui sont des mets des gens honnêtes, et qui a gagné non pas une, mais deux fois la Coupe du Monde. Les Français, donc, pour peu qu'on puisse définir ainsi ce problème, ont une grande habitude de la vérité, laquelle pénètre chaque jour dans leur foyer et dans leurs esprits, esprits reconnus universellement comme particulièrement affûtés. En effet, la vérité s'expose chaque jour, au quotidien, dans la vie du Français. Eh oui, ne constate-t-il pas chaque jour que son effort contribue à la croissance du pays? Merci chef, merci. Que seul l'assistanat l'empêche de posséder son jacuzzi avec les bulles là qui chatouillent le fion, hein? Que seule l'immigration et l'islamo-gauchisme l'empêchent de passer de bonnes vacances all-inclusive chez les Arabes qui sont polis? Et qui l'empêche de mettre des saucisses bien de chez nous sur son barbecue de compétition payé à crédit. La vérité s'expose chaque jour à lui dans les rayons du supermarché où la lessive qui lave plus blanc que blanc, c'est une année blanche bientôt, c'est pour ça, côtoie les promotions les plus excitantes et les têtes de gondole les plus achalandées. La France n'est-elle pas le pays de nos ancêtres? Le pays de Cochonou et du Tour de France. Salut Fab. Le pays le plus central de ce monde barbare. Et pour ainsi dire, le nombril de la planète. Hein? Alors? La vérité est exposée, brillante et incontestable, chaque jour, sur LCI, BFM, CNews, TF1 et combien d'autres canaux dont le nombre même démontre la pluralité des opinions tolérées dans ce pays merveilleux. Cette vérité, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Suffit de regarder. Trop d'assister, suffit de s'en convaincre. Trop d'impôts, suffit de voir la tête des milliardaires quand on en parle. Et puis c'est qu'on ne travaille pas assez, suffit de voir le français en vacances. Hein. Quel con, il sait même pas nager. C'est donc entre deux pages de publicité pour la vérité que les bavardages médiatiques au service de la Macronie, elle-même au service du capital, lui-même au service de l'impérialisme états-unien, que cinq moments de vérité a été canonisé. Parce que même si on a l'habitude de la vérité, faut reconnaître qu'elle a ses petits moments privilégiés. Quand l'impérialisme français se décrépit, que le capitalisme mondial s'écroule et que seule la guerre peut nous sauver, par exemple. Oui, nous sauver. Nous, nos jacuzzi, nos saucisses, nos racines, notre république, notre vérité, quoi. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet 2025, le soleil s'est levé, a sombré dans un ghetto de pluie, dans ces rues où s'allument les guérillas urbaines. Il va se coucher et il paraît que la vérité est aux toilettes. Qu'elle n'a pas tiré la chasse. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
On est encore à lutte éclate. Les salariés d'un côté, le patron de l'autre.
Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils sert un syndicat
scandaleux.
Bonjour, bonjour, vous avez vos papiers. Vous pouvez entrer.
On va embarquer.
Est-il faux ou vrai?
On l'a vu à la télé.
C'est un pays perdu par un peuple trop gourmand, mais qui se redresse
grâce à son gouvernement.
C'est comme dans les...
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 Journaux de Monsieur Nassau.
On pleure sur l'usager coincé dans le métro.
Comme dans les journaux de Monsieur Nassau.
Il se fait libérer par la...
Syndicat.
C'est scandaleux.
On est encore à lutte éclate.
La grève est un cancer.
La page tourne, place à la météo. La star racle l'auto.
Le foot et le vélo.
Aucun danger, la crise n'est passée. Le chômage a baissé.
On est bien régulé.
Au clair de la lune, explosent les profits. Le MEDEF est gentil.
Il t'emmène au paradis.
C'est comme dans les...
Comme dans les...
Comme dans les...
Comme dans les...
Comme dans les
journaux de Monsieur Nassau.
Les marchands de canons sont des gens comme il faut.
Comme dans les journaux de Monsieur Nassau.
L'ennemi est bronzé, musulman ou coco.
Excusez-moi, à faire la grève, parce qu'on a des licenciements qui sont nécessaires pour l'entreprise, ou parce qu'on veut augmenter les salaires. Les Chinois travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines. On est encore à lutte éclate.
Un syndicat,
c'est scandaleux.
C'est un pays qui chasse humanitairement le sans-papier qui passe
dans ces camps d'internement.
C'est comme dans les...
Comme dans les...
Comme dans les...
Monsieur Nassau,
c'est la voix du pauvre.
ans et demi, 27 ans, bisounours. Et puis aujourd'hui, elle va me foutre à court. Non, tcho, non.
Ça fait bientôt plus de 20 ans là, qu'on vous dit que c'est le tube de l'été, et puis ça ne perce pas vraiment. Alors cet été, peut-être.
Passer des pannes de connexion, oh là, des batteries qui vous lâchent et des problèmes de paiement.
Grâce à. Alors il fallait bien que ça déconne. Hein, ça fait donc plus de 20 ans qu'on vous dit que ça doit être le tube de l'été, et puis manifestement, ce tube ne perce pas. Pourtant, il reste d'une incroyable actualité, puisque les actions de M. Dassault sont sans doute en train de monter, lui et quelques autres, bien sûr, et encore plus depuis le discours de Beyrouth hier. C'est en train d'aller à la hausse pour ces gens-là. Alors, ça a beau être cette période estivale, c'est toujours l'heure de le mettre le mercredi, même si mercredi dernier, il y a eu un petit empêchement. Mais on ne vous cache pas qu'on se repose un petit peu et que, justement, comme il nous semble qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité, on a décidé de vous passer la rubrique cassette ce soir. Eh oui, et on va changer de saison puisque nous étions le 8 janvier 2003. À cette époque-là, il neigeait. À ce moment-là, il neigeait. Il neigeait beaucoup. Et ça faisait la une des journaux. On avait une interview juste derrière, et c'est pour ça aussi que c'est d'actualité, de Mohamed Kanaan. C'était de l'ordre du quart d'heure en Palestine. Il était secrétaire général d'un mouvement palestinien dans les frontières de 48, hein, donc dans ce qu'il est convenu d'appeler l'État d'Israël. Donc il faisait partie de ce groupe Abd al-Balad, les fils du pays. On avait fait des recherches sur lui pour savoir ce qu'il était devenu. Bon, il est passé un petit peu en prison, là on n'a pas réussi à trouver des nouvelles plus fraîches. Par contre, Nasser Laham, qu'on avait interviewé il y a aussi une vingtaine d'années sur cette antenne, hein, lui est actuellement emprisonné. C'est un journaliste de Bethléem qui a été emprisonné par l'armée sioniste il y a quelques jours, et qui travaille actuellement pour le média Al-Mayadin, qui a été donc emprisonné, disais-je. Voilà. On entendra ensuite des camarades du CSP59 qu'on invitait régulièrement. D'ailleurs, on vous rappelle que ce soir, là, en ce moment, ça va commencer. Alors qu'il y a une manif en même temps, elles vont se rejoindre. Il y a une manif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et on croise les doigts, puisqu'on va avoir la décision a priori demain, me semble-t-il. Il y a également toujours cette manifestation du comité des sans-papiers, puisque plus que jamais, avec Retailleau, la chasse est ouverte et que les droits les plus élémentaires, les droits démocratiques les plus élémentaires dans ce pays sont menacés, en même temps que les conditions de vie de la masse des gens qu'on appelle les travailleurs et non pas les Français, hein, puisque c'est un abus de langage d'employer ce terme. Donc voilà, je vous laisse en compagnie d'une cassette. J'espère qu'il n'y aura pas de pub, il n'y a pas de pub sur Radio Campus. Donc on fait attention à ce qu'on fait avec nos petits boutons et on se dit à tout de suite, à bientôt, à demain ou à plus tard.
C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège.
C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur.
C'est peut-être Grand Jacques, le petit rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon.
Peut-être Van Gogh, le monde qui grave des ailes sur la porte des Gogues avec son opinel. Zora, râper les tubes de bleu. Il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux.
C'est peut-être serdant. Ses dents à coups de lapidole, jamais on ne saura quand on poursuit 20 piges dans le ring de ses draps en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le monde de la tournée, qu'après en brisure.
Aujourd'hui, mercredi 8 janvier, c'est la Sainte Neige. Sainte Neige est la sainte patronne des grands reporters, toujours à l'affût du petit flocon qui fait la grosse info. Lorsque l'hiver étale son blanc manteau sur la ville, au petit matin, et que la poudre cristalline s'étale, majestueuse, immaculée, sur la rue, l'homme de celle-ci, dépourvu de sens politique, ignorant des grands enjeux de l'information, se dit, en toute innocence, « Tiens, il neige !» Ô peuple d'enfants, peuple immature et lunatique, que ne sais-tu lire les présages apportés par Sainte-Neige ? Faut-il que tu sois tombé si bas pour que désormais, seule une campagne médiatique menée tambour battant, seul un matraquage en bonnet du forme, puisse ouvrir tes yeux chassieux de taupe mongolienne ? Remercie bien haut, incline-toi bien bas, car il est des hommes dont la mission est de porter le flambeau de la vérité dans la nuit crasse de ton abyssale ignorance. Peuple mesquin et ingrat, considère enfin par-delà ton usuel horizon la marche glorieuse et désintéressée de celui sans qui tu croupirais plus bas encore, le journaliste de télévision. Rubberman. Car sans lui, Sainte-Neige fondrait en ton esprit sans laisser trace aucune. Or, Sainte-Neige, c'est des cars scolaires qui ne partent plus. C'est des bons hommes de neige dans les cours de récré. C'est des madames qui disent comme quoi elles n'ont pas vu ça depuis des années. C'est des routes bloquées, verglacées à un point inimaginable. Oui, à un point tel que, eh ben, ça glisse. Sainte-Neige, en bref, et pour éclairer ton esprit chétif et mécanique, c'est une information de première importance que des équipes complètes de reporters nous ramènent, au risque toujours réel de déraper sur la chaussée. Souvenez-vous de Patrick Bourra, Manon. C'est ainsi que Sainte-Neige a, de temps immémoriaux, mais en tout cas ce jour-là il faisait froid, été canonisée. Depuis, la concurrence fait rage entre Chadas et Pujazal, car tous se disputent les honneurs de celle qui, avec son blanc manteau, s'amuse à couvrir tous les coups bas du gouvernement. Aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2003, le soleil s'est levé vers l'azur noir où tremble la mer des topazes. Il s'est couché où le ventre des chiens bassés navigue en paix au crépuscule. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur Radio Campus, le saucisse pois chiche.
Trouble.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, encore une fois.
Et oui, donc nous avons quand même aujourd'hui des nouvelles très importantes et même essentielles pour notre vie de tous les jours.
Une actualité brûlante.
On avait prévu quand même des grands dossiers ce soir, mais l'actualité nous a rattrapé, Christian.
Voilà, l'actualité nous rattrape. Alors, je pense quand même le premier point qui touche l'ensemble des Français... mais ça va jusqu'à la situation du chômage, jusqu'à la situation des acédiques, jusqu'aux les salaires, les retraites, c'est quand même le
ça englobe tout.
C'est la neige, c'est la neige.
Un problème national.
Voire même international. Si on y regarde de plus près, c'est donc la neige et ce qui s'ensuit avec la neige.
Le verglas, Christian. Il faut parler du verglas.
Et donc ça glisse. Et ça glisse d'ailleurs plus dans le sud que dans le nord.
Et voilà. On attendait Blücher.
Oui, et Kessler aussi, mais on les a pas vus. Voilà. Donc voilà, ça glisse, ça patine. Enfin bon, on a vu des belles cités quand même, de très belles cités. Bon,
historiques,
hein, comme par exemple une grande.
Marc-en-Barœul.
Ouais, mais historique,
t'as dit.
Ouais, donc Marc-en-Barœul.
Dans l'histoire du RPR, ça compte.
Ouais, dans l'histoire du RPR, c'est vrai que Marc-en-Barœul compte. Lambersart aussi, ça c'est dans l'histoire de l'UDF, Lambersart.
Chacun son territoire.
Chacun son territoire, et c'est normal, ils se partagent les tranches de gâteau. Hein.
Enfin, la neige, le verglas, ça amène des accidents. Un grand sportif a été touché cette semaine, Christian.
Un des grands événements aussi, c'est un très grand sportif qui donc fait le Paris-Dakar depuis quelques années, même peut-être depuis 20 ans.
Ah ouais,
donc régulièrement, si tu veux. Donc il fait ça habituellement en hélicoptère.
Mais là, il prend des risques. Hein.
Voilà, et en hélicoptère, tout le monde sait qu'on prend énormément de risques. Et là, ce grand sportif, c'est-à-dire Gérard Rolls, a été blessé. Il ne s'est pas pris un coup de poing dans la figure. Non. Il s'est pris une moto.
Voilà. L'émission de ce soir est consacrée, donc est dédiée, et nous devons le dire ce soir, au genou de Gérard Rolls.
Voilà, à son genou, éventuellement, peut-être à son pied aussi. Ah. On ne sait pas trop.
Un autre grand sportif, alors, Christian.
Autre grand sportif, oui, c'est quelqu'un qui arrive à naviguer quand même sur...
Champion du monde de flashball. Hein.
Alors, champion du monde de flashball. Alors, en fait, on a appris, alors tout à fait... par hasard, qu'il ait donc demandé la nationalité corse
pour pouvoir être élue donc présidente de la Corse dès que celle-ci serait totalement indépendante.
Nicola Sarkozy.
Et comme ça, il pourrait enfin être véritablement élu par des mafieux. Donc c'est Sarkozy, c'est quand même une grande nouvelle. Il va demander sa nationalité corse et il aura, j'espère avec cela, des possibilités d'avoir des dégrèvements fiscaux, éventuellement encore continuer à avoir un certain nombre d'aides de l'Europe, même peut-être de la France d'ailleurs, qui sera quand même le grand pays frère.
On ne dit pas la France, on dit le continent.
Le continent, pardon, oui. Bref, et donc Sarkozy sera sûrement le prochain président de la Corse. Tant mieux pour lui, on a trouvé une porte de sortie pour ce fasciste quand même. Bon, mais c'est normal
enfin
qu'il aille
débarrassé.
Là-bas. Voilà, bon. Donc, bon, c'est bon, on va arrêter là sur les nouvelles.
Tout à fait. Dans l'émission de ce soir, eh bien, une émission qui se fera en luge ou à ski. Hein,
pas à bicyclette, en tout cas.
Non. Bien sûr, notre traditionnelle rubrique Un quart d'heure en Palestine qui devrait nous permettre d'être à nouveau, encore une fois, en direct avec la Palestine cette semaine.
Si la neige le permet.
Et ensuite, eh bien, nous traiterons d'un sujet qui, vous le savez, nous préoccupe et devrait, en tout cas, vous préoccuper tous. C'est la situation des sans-papiers avec notamment eh bien, des événements qui ont eu cours à la fin de l'année dernière, en 2002. Donc. On verra tout ça tout à l'heure, hein, après donc le quart d'heure en Palestine qui va arriver très bientôt, en fait, si j'ai bien compris.
Un quart d'heure en Palestine.
Un quart d'heure en Palestine avec ce soir, eh bien, un rendez-vous important puisque nous retrouvons sur antenne Mohamed Kahana, si j'arrive à prononcer, qui est en ligne avec nous. Mohamed, are you listening to us?
Yes.
Yes, okay. Mohamed Kahana, vous êtes secrétaire général d'un mouvement politique, Abna El Balad, les fils du peuple. Alors je vous remercie de prendre note, car notre première question est assez longue. En Occident, les gens ont l'habitude de penser la politique en termes de droite et gauche. Or, quand il s'agit de pays non occidentaux, on a parfois l'impression que cette distinction disparaît. Pourtant, en Palestine comme ailleurs, il y a bien une droite et une gauche. Où vous situez-vous? Sur quel fondement historique est né votre mouvement? Quelle est votre position par rapport aux autres mouvements palestiniens? Quels sont vos points d'accord et vos divergences? Quelle est votre position en particulier vis-à-vis d'Arafat? C'est une longue question.
الرفيق محمد كنعنا بصفتكم الأمين العام لحركة أبناء البلد نود منكم عبر هذا الاستجواب تزويدنا بصورة موضوعية عن الأوضاع بفلسطين. أولا نلاحظ أن الخطاب السياسي في الغرب يتميز في أغلب الحالات بالصراع بين اليمين واليسار، بينما في الدول الغير الغربية يبدو وكأن هناك غياب هذا التمييز بين قوى اليمين واليسار. ولكن بالرغم من هذه المفارقة الصورية، نعلم أن بفلسطين كما بغيرها من الأقطار هناك يمين ويسار. وبالتالي رفيق محمد، ما هي العناصر التاريخية التي أفرزت حركة أبناء البلاد؟ وما هو موقعكم في الساحة السياسة الفلسطينية، وخصوصا علاقاتكم مع بقية الفصائل الفلسطينية ومن بينها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات؟ ننتظر الجواب الرفيق محمد.
مساء الخير أولا.
Bonsoir, premièrement.
نحن في حركة أبناء البلد، حركة وطنية فلسطينية يسارية تنشط في مناطق المحتلة عام 48، أي بمعنى آخر داخل دولة إسرائيل. العناصر التي تكلمت عنها في المفارقات بين اليمين واليسار في أوروبا والعالم العربي، هذا للأسف الشديد من المفارقات الموجودة فعليا في هذا الوقت من الزمان. نحن في حركة أبناء البلد كنا منذ بداية نشأتنا كجزء من اليسار الفلسطيني واليسار العربي، والعوامل التي أفرزت حركة أبناء البلد وكانت الداعي وراء نشوئها هو كوننا جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وكوننا جزءا من قضية شعبنا وأمتنا العربية. هذا أولا.
نعم رفيق.
وثانيا
يمكن من فضلك بعض الثواني. نوتخ موفمون لي ابناء البلد، سيتادير لي زونفون دو لي زونفون دو لا باتري، نو سوم اون كومبوزونت دو موفمون ناسيونال باليسينيان، اي نو كونسيديرون كوم ايتون دو دي جون دو غوش دو سي كومبوزونت. نو ريبريزونتون اسونسييلمون لي عرب دو باليستين. Ce qu'on entend par les Arabes de Palestine, c'est-à-dire les Arabes qui sont restés en Palestine après la création d'Israël en 48. Et évidemment, comme tout peuple sur Terre, il y a des contradictions qui traversent notre mouvement, et nous considérons effectivement que nous avons des divergences avec les autres mouvements du mouvement palestinien. Nous considérons que nous représentons que ce soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël, c'est-à-dire dans les territoires occupés en Cisjordanie et à Gaza, un mouvement radical qui a son regard et ses analyses. Tfaddal Mohamed.
ثانياً أننا على مدار 54 عاماً الماضية لم نرى أي حركة سياسية أو مشروع سياسي إن كان فلسطينياً أو على الصعيد الإسرائيلي يأتي بحل حقيقي وحل جذري للمسألة الفلسطينية والمسألة اليهودية، أي بمعنى آخر حل قضية الصراع العربي الصهيوني. ومن وجهة نظرنا نحن كفلسطينيين وكيساريين أن هذا الحل الذي لم يطرح حتى هذا اليوم هو بإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على فلسطين التاريخية وإعادة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم، أي بمعنى آخر أن تكون هناك دولة تضمن العرب واليهود أن يعيشوا فيها وعلى نفس الأرض بمساواة تامة. ولنأخذ على سبيل المثال جنوب أفريقيا كمثلا يحتذى به بالنسبة لنا.
شكرا رفيق محمد. Tout le monde a pu constater que durant les 54 années passées, aucune composante palestinienne ni composante israélienne n'a pu apporter une paix dans cette région et aux problèmes palestiniens. De notre côté, nous avons toujours milité et nous militerons toujours pour une position certes singulière dans le monde et assez originale. On n'en parle pas assez. Nous œuvrons pour la création d'un État palestinien sur tout le territoire palestinien, le territoire historique palestinien, pour un État unique, un État démocratique et laïque où Arabes et Juifs, musulmans et chrétiens peuvent coexister en paix avec une égalité qui est indépendante et ne considère pas les origines ethniques ni religieuses ni d'opinion. C'est en cela que consiste notre combat au sein même de l'État d'Israël et dans les territoires occupés.
Monsieur Kanaan, merci de vous être présenté. Sur votre site internet, vous établissez un parallèle entre l'Afrique du Sud de l'apartheid et la situation actuelle en Palestine. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les similitudes entre ces deux régimes ?
رفيق محمد، نكتشف في صفحة حركتكم بشبكة الانترنت مقارنة قوية بين افريقيا الجنوبية والابارتايد وبين ما تعيشه فلسطين حاليا. هل يمكن لكم من فضلكم توضيح واضاءة القواسم المشتركة بين نظام الابارتايد ونظام السياسي الاسرائيلي؟
بطبيعة الحال عندما قامت دولة اسرائيل عام 48، هذه الدولة قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني. في عام 48 تم طرد ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه ومن دياره ومن وطنه إلى مخيمات الشتات واللجوء. وفي عام 48 تم هدم 531 قرية ومدينة عربية. أي باختصار إسرائيل والحركة الصهيونية قامت بنزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة بأرضه على أرض وطنه. ومن ناحية أخرى، منذ قيام هذه الدولة وحتى يومنا هذا تعاملنا نحن المواطنين العرب في داخل إسرائيل، ما نسمى بالمواطنين بين قوسين، على أننا أعداء لهذه الدولة وعلى أننا غرباء نعيش في وطننا. والعديد من القوانين التي شرعت في البرلمان الإسرائيلي الكنيست هي تميز بين الجماهير العربية والأكثرية اليهودية في هذه الدولة. العرب اليوم يملكون فقط 2.5% من مساحة أرض فلسطين، وهذه جزء من سياسة الأبرتايد. أيضا سياسة هدم البيوت لم تتوقف منذ عام 48، عشرات الألاف من البيوت العربية هدمت، وأنا هنا أتكلم عن الجليل والمثلث والنقب، أي داخل إسرائيل. فكم بالحري عندما نريد أن نتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يمارسه الاحتلال يوميا في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أهلنا الفلسطينيين من سياسة قتل وتشريد واعتقالات وتصفية هي لا تختلف عن سياسة الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.
شكرا رفيق محمد. Depuis 48, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël, l'État d'Israël n'a pas cessé de pratiquer la politique d'expulsion des Palestiniens, de l'expropriation de leurs terres, et le mouvement sioniste a à côté de tout cela, une sorte de frénésie de rendre les Arabes restés en Israël, de leur occulter, de leur faire d'enlever toute cette tout ce qui les relie au peuple palestinien, à leur histoire. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la mémoire collective du peuple palestinien. Et quand on parle d'apartheid, c'est pas une sorte d'exagération de notre part, c'est un vécu quotidien. Quand on sait que 2,5% de la surface d'Israël, hein, je parle de l'État d'Israël lui-même, 2,5% de la surface habitable et la propriété des Arabes d'Israël qui représentent 20% de la population totale. La population arabe en Israël constitue 1 200 000 personnes, pratiquement le 1/5 de la population, alors qu'en termes de propriété de la terre, il constitue 2,5% de la surface israélienne. Sans parler évidemment de la politique d'expropriation de la terre, de la politique de répression et d'emprisonnement par rapport à toute voix qui s'élève pour dénoncer la politique sioniste pratiquée en Israël. Et notre mouvement est le porte-parole de toutes ces luttes. Voilà.
Alors, Mohamed Kanaan, vous êtes responsable, donc, du mouvement politique Abna al-Balad. Vous êtes notamment basé en Israël, c'est ce que vous dites, hein, vous êtes arabe-israélien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la solidarité qui existe des Arabes israéliens vers leurs frères palestiniens qui sont au-delà donc des frontières actuelles d'Israël? Et aussi, deuxième question, quels sont vos liens avec les mouvements de gauche israéliens, avec les mouvements radicaux israéliens?
رفيق محمد، هل صحيح أن تنظيمكم السياسي متواجد ليس فقط بغزة والضفة الغربية ولكن أساسا داخل إسرائيل؟ وما هي علاقة إن كان هذا صحيحا؟ نود أن نتعرف عن أشكال التضامن التي تبدعها الجماهير العربية بإسرائيل تجاه نضالات الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا سؤال من جانب. السؤال الثاني، نود أن نتعرف كذلك عن نوعية علاقاتكم بالقوى السياسية اليسارية بإسرائيل.
أولا، نحن كحركة وطنية فلسطينية ننشط في بين جماهير الفلسطينيين داخل إسرائيل وليس في الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن حركة سياسية متواجدة داخل إسرائيل، وعلاقتنا مع القوى السياسية الفلسطينية والفصائلية الفلسطينية هي علاقات جيدة بالمعنى العام، لأننا نحن نعتبر أنفسنا بأننا جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأننا جزءا لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية في نفس الوقت. ونحن نقوم باتصالات وعلاقات سياسية وفكرية وتشاور مع العديد من الشخصيات اليسارية تحديدا الفلسطينية. وبالنسبة لعلاقتنا مع التيار المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، فقد انقطعت تقريبا هذه العلاقة بعد أن وقع على اتفاق أوسلو وتخلى عنا كجزء من الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة لعلاقتنا بالقوة اليسارية داخل المجتمع الصهيوني، فهناك نوعين من القوى المسمى يسارية في المجتمع الإسرائيلي. هناك القوى اليسارية الصهيونية، والتي لا يوجد بيننا وبينهم أي علاقة مطلقا، لأن هذه الأحزاب هي أحزاب صهيونية وتعتبر أن الدولة هي دولة الشعب اليهودي، وتعتبرنا نحن مواطنون من الدرجة الرابعة أو الخامسة. أما بالنسبة للقوى اليسارية اليهودية المناهضة للصهيونية والتي تؤمن بحق العودة للاجئين وإقامة دولة ديمقراطية علمانية، فلنا علاقات جيدة معها ونحن نعمل بتنسيق كامل ومشترك. وأيضا هناك أعضاء يهود في حركة أبناء البلد وهم ينشطون على أساس البرنامج السياسي لحركة أبناء البلد القائم على حق العودة وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية.
شكرا رفيق محمد. notre mouvement notre mouvement Abna El Balad, qui s'appelle Abna El Balad, est un mouvement qui travaille à l'intérieur de l'État d'Israël et non pas dans la Cisjordanie et à Gaza. C'est un mouvement essentiellement qui travaille, et pratiquement, hein, qui travaille à l'intérieur de l'État d'Israël. Les relations avec les autres organisations palestiniennes et le reste du peuple palestinien, notamment en Cisjordanie et à Gaza, sont excellentes et très bonnes. Nous avons des liens extrêmement fertiles et des relations fécondes. À part le fait que depuis la signature des accords d'Oslo, la direction de l'OLP, évidemment, nous a boudé, et évidemment nous de même, parce que nous considérons que cette affaire d'accord d'Oslo va à l'encontre d'un règlement de la question palestinienne et de la recherche de la paix, contrairement à ce que peut promulguer certaines presses occidentales. Quant à notre relation avec la gauche israélienne, il faut absolument distinguer entre deux gauches israéliennes qui existent sur le terrain. La gauche sioniste, qui considère effectivement que l'État d'Israël doit exister tel qu'il est, qu'ils adhèrent absolument à la politique coloniale de l'État d'Israël. Ce mouvement-là, on n'a aucun lien avec lui. Par contre, il y a une gauche juive anti-sioniste et dont certains membres d'ailleurs font partie du mouvement de Abna al-Balad et qui reconnaissent le droit au retour de tous les Palestiniens et de tous les réfugiés palestiniens dans leur territoire et dans leur terre. Avec cela, on a des relations très privilégiées, très cordiales, et on milite la main dans la main.
Mohamed Kanaan, quel est votre état d'esprit actuel? Quel est le moral de la population palestinienne, et notamment de ces Palestiniens qui vivent en Israël, alors même qu'on sait que le contexte est difficile avec cette guerre qui semble s'annoncer en Irak?
رفيق محمد، ما هي نظرتكم وتصوركم للمستقبل، وكذلك نظرة للفلسطينيين داخل، كيف يتوقعون المستقبل الفلسطينيين داخل إسرائيل، خصوصا وأن الظرف الحالي كما تعرفون فهو استعداد لحرب ضد العراق، فما هي نظرتكم للمستقبل وتصوركم له؟ شكرا.
أولا، في هذه الأيام هناك ارتفاع حاد في وصعود للفاشية في إسرائيل، وهذا الصعود بشكل لم يسبق له مثيل، ونحن على دراية ونعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية والقوى الصهيونية واليمينية سوف تستغل أي ضربة للعراق تحديدا لتنفذ مخططا مبيتا تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا المخطط الذي يقضي بطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى خارج حدود إسرائيل. هذا ما نتوقعه وما نخشاه، ولكن بالمقابل هناك كما ذكرت إعداد ومحاولات لشن حرب على العراق في هذه المرحلة. هذه الحرب سوف تنتهي بخطة أو مخطط إمبريالي استعماري يقضي بتقسيم العالم العربي مرة أخرى، وسوف تقوم الحكومة الإسرائيلية باستغلال هذا المخطط لتوسيع نفوذها في المنطقة ولارتكاب مجازر أخرى بحق الشعب الفلسطيني.
D'abord, nous constatons que ces derniers temps, il y a un fascisme à l'intérieur d'Israël. Le mouvement fasciste à l'intérieur d'Israël ne cesse de remonter, ne cesse de s'agrandir, de se renforcer à l'intérieur d'Israël. Et ne pensons qu'une guerre déclarée contre l'Irak par évidemment, comme tout le monde le voit et le constate, par les Américains, ne peut que profiter à l'État d'Israël pour appliquer un plan bien précis et bien élaboré qui consiste à éloigner les Palestiniens de leur territoire, les éloigner d'abord d'Israël, ceux qui habitent la bande de Gaza et la Cisjordanie, leur mener une vie au nom de la lutte contre le terrorisme, une vie dure, afin que le règlement de la question palestinienne soit repoussé à plus tard.
Alors, Mohamed Kanaan, on vous remercie d'être intervenu. Quelques mots, très rapidement, car le temps nous presse. Qu'est-ce que vous attendez en tant que mouvement de gauche, de l'opinion publique internationale, qu'est-ce que vous attendez donc notamment des gauches, des peuples de gauche ailleurs? Est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, des mouvements anti-mondialisation qui actuellement se manifestent en Europe notamment?
رفيق محمد سؤال مهم يعني نود أن نعرف ما هي انتظاراتكم تجاه الرأي العام الدولي وهل تحسون شيئا ما من القرابة مع الحركات المناهضة لما يسمى بالعولمة العولمة الاقتصادية والثقافية إلى آخره
طبعا نحن نحيي كل نشاط القوى والأحزاب والحركات والمؤسسات في العالم الغربي التي تناهض أولا الإمبريالية والعولمة وتساند الشعب الفلسطيني وترفض الحرب على العراق نحن نتابع هذه التطورات وهذه النشاطات خاصة في أوروبا في الفترة الأخيرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه النشاطات إنما هي تزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني وتقوي من إرادته لأنها ترى فيها سندا لها وسندا داعما لقضيتها ولعدالة القضية الفلسطينية والقضية العربية وأيضا القوى التي تناهض العولمة في هذه الأيام هي قوى حية في المجتمع العالمي وهي اليوم تتسع وهناك تنسيق نحن في أبناء البلد ننسق مع هذه القوى ومع عديد من الأحزاب في أوروبا وفي أمريكا ونقوم باتصالات مباشرة معهم ونحاول أن نشارك في نشاطاتهم وأيضا أن ننسق نشاطات مشتركة فعندما كان في أوروبا في 26 من شهر أكتوبر مظاهرات في جميع أنحاء أوروبا ضد الحرب على العراق نحن في حركة أبناء البلد نظمنا تظاهرة مماثلة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب ومن هنا فنحن نحيي هذه القوى ونحن نطالب أيضا بزيادة الفعاليات المناهضة للعولمة والمناهضة للحرب وبالأساس أن يتم هناك الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والمقاطعة السياسية لإسرائيل أيضا حتى يتم الضغط أكثر وأكثر على الحكومة الإسرائيلية من أجل منع ارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني
Nous sommes évidemment très au courant des différents mouvements qui militent contre ce qu'on appelle évidemment la mondialisation et nous sommes très fiers de ce mouvement. On collabore à notre côté, suivant nos moyens, pour renforcer ce mouvement. Nous partageons absolument les idéaux qui animent ce mouvement. L'impérialisme américain et l'impérialisme occidental en général qui veut imposer son point de vue au reste du monde. Nous considérons d'ailleurs que la question palestinienne fait partie de ce complot de ce complot impérialiste et nous sommes tout à fait, nous partageons tout à fait les idéaux qui animent ces mouvements contre la mondialisation. D'ailleurs, il y a eu des manifestations au mois d'octobre 2002 partout en Europe, et pour marquer notre solidarité en tant que mouvement Aulad al-Balad, nous avons aussi organisé une grande manifestation devant le consulat d'Amérique à Tel Aviv. Alors, par rapport à l'opinion publique mondiale et française en particulier, nous souhaitons que les gens soient conscients que toute manifestation à l'encontre de cette mondialisation et notamment le boycott des marchandises provenant d'Israël et le fait d'œuvrer au niveau du Parlement européen pour que la politique européenne envers Israël change, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et c'est vraiment notre attente par rapport à l'opinion publique européenne et française en particulier.
Merci beaucoup, Mohamed Kanaana, d'être intervenu ce soir sur notre antenne. Au nom donc de ce mouvement Abna El Balad, shukran, Mr. Kanaana.
شكراً رفيق محمد جهاز راديو وكل الرفاق هنا يعبرون لك عن تضامنهم معكم ومع حركة أبناء البلد وشكراً
شكراً لكم ويعطيكم العافية
شكراً
شكراً
donc le 8 janvier 2003 dans ce même studio et sur les mêmes ondes de Radio Campus. Et vous le savez, les cassettes, eh bien, le léger désagrément qu'il peut y avoir, c'est qu'on doit les retourner. Et c'est ce qu'on fait à l'instant même. Ce qu'il y a de frappant avec les Palestiniens, lorsqu'ils ont quelques sens politiques, et ils sont très très nombreux à avoir du sens politique, c'est que même 20 ans après, quand on les écoute 20 ans après, eh bien ça reste totalement d'actualité, et c'est tout à fait pertinent, tant il est vrai que le projet colonial sioniste a été écrit noir sur blanc et absolument lisible, pour peu que l'on se débarrasse des scories de la propagande occidentale. C'est toujours l'heure de le mettre, et c'est toujours sur Radio Campus, c'est toujours sur le 106.6, c'est toujours la rubrique cassette. Tiens, on va écouter, si vous n'avez pas entendu, voilà, elle est là. Et après cette rubrique cassette, vous retrouverez les copains de Pyongyang City Rockers. Bonne soirée à tous, à toutes et aux autres. Love.
Toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, à un moment où justement on solde tout. Christian, tu es d'accord avec moi?
Alors tout est soldé, le tout c'est de savoir effectivement si les soldes se passent bien. Alors apparemment, ici à V2, ça a l'air d'aller. Il y a des bagnoles partout, il y a un monde fou, c'est impossible de se garer, donc ça va, les soldes se passent bien. Mais on n'est pas là pour parler des soldes ce soir.
Non.
Non, tout à fait. C'est Sam qui intervient tout de suite pour dire que nous ne sommes pas là pour les soldes.
Non, parce que les soldes, c'est bien beau, mais nous allons évoquer ce soir eh bien, quelque chose qui s'est produit sur l'île et qui est passé, on peut le dire, relativement inaperçu, qui pourtant a son importance, ce qui explique que ce soir, exceptionnellement, on va dire, puisque ça arrive quand même très rarement, nous avons le responsable d'un parti politique, enfin un représentant d'un parti politique, qui est la Ligue communiste révolutionnaire. On revient sur ce qui s'est passé. C'était quel jour, Christian, tu peux me rappeler?
10 Alors, et 12 décembre.
10 et 12 décembre.
C'était pas Christian là.
Non. Je le signale. Non, ouais. Il y a eu deux incendies successifs dans le local de la Ligue communiste révolutionnaire à Lille. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet? Corrado Delfini, donc représentant de la Ligue communiste révolutionnaire ici à Lille, qu'est-ce qui s'est produit et quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé, donc ces incendies dans votre local?
Alors, tout d'abord les fêtes peut-être. Le 10 décembre, je crois que c'était un mardi, a eu lieu un incendie dans notre local, plus précisément d'ailleurs au premier et au deuxième étage du local de la Ligue communiste révolutionnaire. Sont intervenus les pompiers et donc pour éteindre cet incendie, d'ailleurs, ils ont dû inonder complètement le rez-de-chaussée. Et pourtant, malgré un rez-de-chaussée complètement inondé, deux jours après, de nouveau un incendie, et là cette fois c'est le rez-de-chaussée qui a purement et simplement été brûlé complètement, puisque le local est dans un très très mauvais état. Ce qui nous laisse à penser évidemment que c'est un acte criminel. C'est pour avoir réussi à incendier deux fois d'affilée dans ces conditions, c'est véritablement un acte criminel qui s'est passé, quoi.
Alors on n'est pas là pour faire la lumière sur un fait qui est dans les mains de la justice désormais, parce que c'est pas notre rôle ni dans nos capacités. Mais cela dit, vous aviez reçu peut-être quelques signes qui pouvaient vous faire craindre cela. Est-ce que c'est le cas?
On avait reçu, mais comme je pense toute organisation révolutionnaire, on avait reçu des tracts quelquefois d'insultes. On y reviendra après, des tracts nous insultant. En particulier parce qu'on hébergeait la permanence juridique des sans-papiers. Alors, beaucoup d'hypothèses peuvent être formulées. Nous, pour tout dire, on n'en privilégie aucune. Mais on veut, par contre, qu'il y ait une véritable enquête qui soit faite, parce que je pense que c'est un des aspects les plus troublants de cette histoire. C'est que le premier incendie a eu lieu le 10 décembre. On est aujourd'hui, me semble-t-il, le 7 ou le 6...
Le 8
janvier. Et jusqu'à présent, on n'a aucune information de la police sur l'enquête qui a été menée. Et ça, c'est pour le moins troublant.
Mais Sam, je te laisse la parole.
Moi, j'ai entendu dire, par votre communiqué de presse notamment, que l'incendie a eu lieu le 12, le deuxième incendie a eu lieu le 12, et vous, militant de la LCR, vous n'avez pas été mis au courant tout de suite à quoi c'est dû, ça? Est-ce qu'il y aurait des... On n'appelle pas les gens dont la maison brûle en général?
Ben c'est pourtant ce qui semble se passer habituellement. D'autant plus qu'on est très souvent appelé, pour tout dire, on a une conseillère régionale qui s'appelle Nicole Taquet, qui est souvent interpellée par la police pour des faits très mineurs, par exemple pour des collages qui apparemment seraient des collages illégaux. Et par contre, sur un fait aussi important que ça, on n'a pas eu la moindre information de la police. Sachant que dès le premier procès-verbal de la police était mentionné en toutes lettres le fait que ce local appartenait à la Ligue communiste révolutionnaire. Donc il le savait extrêmement bien.
Mais la police oublie de prévenir les responsables de l'organisation politique. Donc la première fois, mais apparemment la deuxième fois aussi, la police s'oublie qu'il peut éventuellement y avoir un propriétaire, un locataire. Donc c'est un peu bizarre la façon dont la Ligue apprend les choses, non ?
Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ni le propriétaire du local, ni la LCR n'ont été mis au courant par la police. En fait, on a été mis au courant par un journaliste lors de la manifestation contre la guerre au mois de décembre, qui nous a informé qu'un local, vraisemblablement le local de la LCR, avait brûlé suite à un acte criminel. Mais jusqu'à présent, la police est absolument aux abonnés absents depuis maintenant plus de 3-4 semaines.
Mais il y a quand même des faits troublants, parce qu'habituellement, les journalistes, quand il se passe des choses de ce type, c'est-à-dire incendie, accident, ils regardent donc ce qui s'appelle la main courante dans le commissariat central de Lille. Habituellement, les journalistes sont quand même amenés à noter des choses et à les répercuter dans leurs journaux. Et là, pareil, apparemment, il n'y a absolument rien eu. C'est-à-dire que la main courante, ou elle n'a pas été présentée aux journalistes, ou alors on leur a demandé de se taire, non ?
C'est une des questions qu'on se pose, pour tout dire. On a fait une conférence de presse le 24 décembre, où là, les journalistes sont venus. Donc c'était 12 et 14 jours après les deux incendies. Et où, à l'évidence, les journalistes nous ont dit que c'était pas un motif assez important pour passer ce type d'information dans la presse. Alors, pour nous, c'est quelque chose de pourtant. Il nous semble que ce qui est important dans la situation aujourd'hui, c'est de ne pas banaliser ce type d'acte criminel. C'est pas banal qu'aujourd'hui à Lille, comme peut-être dans d'autres villes de France, un local d'une organisation politique, quelle qu'il soit, en l'occurrence c'est le local de la LCR, soit incendié sans que personne n'ait l'air de trouver ça, important. Ni la police, ni même les médias, en l'occurrence, et La Voix du Nord ou les autres journalistes.
Et sur justement cet acte criminel, est-ce que vous avez des soupçons ou éventuellement des interrogations plus précises sur ce qui a pu se passer, sur le pourquoi qu'est-ce qui peut amener éventuellement la réflexion de la Ligue sur cette affaire parce qu'un incendie, comme ça se déclare de toute évidence, en mettant une petite allumette avec du papier, voire éventuellement avec de l'essence, est-ce que vous avez des soupçons sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'il peut y avoir derrière cet incendie ?
Non, on formule des hypothèses, mais des hypothèses de tout ordre. Hein. Ça peut être un effet de notre soutien à la lutte des sans-papiers. Ça peut être aussi une initiative prise par un groupe d'extrême droite, puisque de mise au pilori d'une organisation révolutionnaire. Ça peut être même d'autres aspects. Ce qui nous semble important, justement, c'est ces hypothèses peuvent être formulées, mais c'est une véritable enquête qui permettra de savoir qui sont les véritables fautifs dans cette histoire, et on souhaite que cette enquête démarre véritablement, et on sera amené à prendre des initiatives, y compris au niveau politique, sur la place publique de Lille, si les choses continuent à rester en l'état, pour accélérer et pour faire pression sur la police. On peut se demander que fait la police aujourd'hui par rapport à cet incendie.
En tout cas, nous, ce qui nous interpelle ce soir ici, c'est qu'un local politique, d'un parti politique, dont on partage ou pas les opinions, la Ligue communiste révolutionnaire, soit aujourd'hui incendié dans un contexte qu'on nous présente volontiers comme celui du dialogue social, de bon Raffarin, le gentil pépère, Sarkozy qui va rétablir la sécurité. On s'aperçoit que derrière tout ça, il y a une véritable offensive de la droite et du pouvoir contre tout ce qui pourrait éventuellement dépasser la tête.
Mais oui, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que alors nous, on va pas se présenter comme journalistes, mais plus comme des gens qui nous posent un certain nombre de questions qui se passent dans la société, puisque bon, nos émissions habituellement, on est plutôt du type à se poser la question de ce qui se passe. Et là, quand même, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, une organisation politique qui soutient une lutte menée depuis un certain nombre d'années par des hommes et des femmes et dans notre région, ce parti donc est attaqué de façon criminelle, puisqu'en fait c'est ça. Ce qu'on peut se poser la question effectivement, c'est que on nous rabat sans arrêt que la police est partout. Effectivement, la police est partout. On les voit, hein, on les voit, mais très souvent s'attaquer aux jeunes et s'attaquer aux immigrés. Mais là, concernant cette police, on comprend très bien que un lieu qui est où il y a donc volontairement le feu qui puisse être mis, on peut pas dire que les choses puissent avancer rapidement. Quand la police a envie de faire avancer les choses, elle le fait avec ses méthodes et elle le fait habituellement. Et ça permet effectivement de se poser la question, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus promptes à combattre ceux qui n'ont pas de papier qu'à effectivement faire la lumière sur ce qui a pu se passer ce jour-là. Demain, à la limite, pourquoi ne pas aller brûler le local d'un militant, donc l'habitation d'un militant, pourquoi pas demain aller brûler sa voiture. Bon, à la limite, on peut se poser la question. Donc, le fait est, c'est que et sont impliqués au niveau de cet acte criminel, en fait, des hommes et des femmes qui se battent, et qui se battent pour leur dignité, pour leurs droits. Et ça nous permet de poser maintenant la question à je dirais, aux locataires de...
Oui, tout à fait, parce que cette politique réactionnaire qui est menée, on le sait, en première ligne, il y a les plus faibles d'entre les faibles. Et dans notre société, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, il y a, en première ligne, dans les faibles parmi les faibles, les sans-papiers, qui sont une main-d'œuvre tout à fait idéale pour le patronat de certains secteurs économiques. Ça permet effectivement de tirer les salaires vers le bas, de permettre de faire de travailler des gens en noir.
Et d'avoir quand même des bénéfices un peu juteux.
Et d'avoir des bénéfices juteux. Et on a bien vu que dans cette histoire d'incendie du local de l'LCR, il semblerait que la lutte des sans-papiers soit directement attaquée. C'est pourquoi ce soir nous avons dans les studios également Eva et Nasser, donc du comité des sans-papiers de Lille. Et ça va être l'occasion non seulement d'évoquer cet incendie, cette criminalisation du mouvement social qui se poursuit, mais également peut-être derrière les discours qui en séduisent plus d'un. Les discours de Sarkozy et compagnie sur oui, nous allons régler le problème de la sécurité, oui, nous allons régler le problème de l'immigration, nous allons régulariser par-ci, régulariser par-là, et puis de temps en temps expulser un petit peu. On va voir ce soir, peut-être avec Eva et Nasser, donc du comité des sans-papiers, quelle est la réalité pour les sans-papiers aujourd'hui ici à Lille, quelle est la réalité, ce qu'ils vivent concrètement. On verra ça après une page musicale, et bien évidemment, notre ami Corrado de la Ligue communiste révolutionnaire reste dans les studios.
Sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin. Qu'elle nous prend par la taille et qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de juin. Elle, on était c'était bien la fille du coupeur de joint. Dans les nuages, au milieu des petits lapins, la fille du coupeur joint.
C'est toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Et donc, je le rappelle, nous avons dans les studios, comme représentant de la Ligue communiste révolutionnaire, Corrado Delfini, mais nous avons également donc représentant du comité des sans-papiers de Lille et de la région, Eva et Nasser. Quelle est votre interprétation en tant que comité des sans-papiers sur cet incendie d'abord ?
D'abord sur l'incendie, j'aurais d'abord dit une chose, que il y a une chose à laquelle le CSP 59 est très attaché sur dans sa lutte actuelle, c'est ce que nous appelons au CSP la bataille de l'opinion. Et la bataille de l'opinion, ça me permet en même temps de remercier le camarade qui nous ont invités aujourd'hui, parce que nous pensons que l'incendie de la LCR visait en fait à isoler complètement les sans-papiers, et nous pensons que c'est un incendie criminel, tout simplement. Et donc c'est véritablement remercier le camarade de nous avoir invités à pouvoir un petit peu nous expliquer et donner notre opinion sur cette question. Nous pensons sincèrement que c'est un incendie criminel. Plusieurs raisons peuvent être avancées, plusieurs motifs. La première chose qu'on va dire, c'est que dès que le gouvernement Chirac, Raffarin, Sarkozy a été installé, on a dû faire face à des arrestations suivies des expulsions. Tout de suite après, au mois d'août, par exemple, on a connu les cas des Kadour, très longtemps en France, qui a été arrêté puis expulsé. Il y a eu Deschir Zinedine qui a été expulsé, et il y a eu Ahmed Lahiri Nouna. Donc malgré toutes les tentatives que nous avons essayées, ça n'a pas marché. Tout de suite après, on a vu que les membres de la commission de discipline, pour la plupart, ont été interpellés. L'un de responsables de la commission juridique des sans-papiers a vu sa voiture incendiée. Il y a par exemple Yusette Farigneux qui est connue parce qu'elle est aussi membre du MRAP qui a été interpellée par la police sur la question des sans-papiers. Pendant la campagne électorale, Monsieur Sarkozy, qui était déjà ministre de l'Intérieur, a fait intercepter, j'étais dans l'escorte, a fait intercepter une délégation de la direction du CSP qui se rendait à un meeting qu'il organisait à Luin. Et nous avons tout simplement été kidnappés, et on nous a gardés au commissariat de police de Tourcoing jusqu'à la fin du meeting. Cet incendie, à notre avis, un incendie qui se déclare une première fois, comme le disait Corrado tout à l'heure, les pompiers interviennent. Et deux jours après, on revient et on incendie le rez-de-chaussée. Pendant ce temps, il y a des expulsions au niveau de CSP, mais il y a aussi autre chose. Nous sommes actuellement en dialogue avec la mairie de Lille pour un local. Et complètement, on a un blocage par rapport au local. Par rapport à ça, ça nous interpelle. Et nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait une pression qui s'efface devant à la police pour que toute lumière soit faite sur cette affaire. Parce que ce n'est pas clair. La police nous a interpellé, nous, au CSP, pour des simples collages d'affiches. Mais ici, il ne s'agit pas de collage d'affiches. Il s'agit d'un incendie criminel. Nous pensons que l'affaire ne peut pas s'arrêter là. Elle est suffisamment grave pour qu'on aille plus loin. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette affaire. Et nous pensons que nous sommes disposés, nous l'avons dit aux camarades du LCR, nous sommes disposés à pouvoir aller plus loin pour dénoncer cette affaire, pour que qu'elle ne s'arrête pas là. Nous rappelons ici que la LCR nous a cédé ce local, non pas comme disait Corrado, pour les permanences juridiques, mais pour des réunions de réorganisation, en fait. Il faut savoir que depuis les 30 août, nous n'avons pas de local. Et le local de la SR qui nous avait été prêté, nous sommes arrivés au moment où ils ne pouvaient plus mettre à notre disposition ce local-là. Et la LCR, comme elle avait fait avant, lorsqu'il y avait eu une grève de la faim, nous a accordé ce local-là pour que nous puissions y tenir des réunions. Nous y tenions des réunions des commissions, nous y tenions des réunions des groupes, nous y tenions des réunions des femmes. Et ce que Corrado disait d'autres, qui était très juste, c'est que il y avait déjà un précédent par rapport à ça. Il y a eu un tract véritablement fasciste qui parlait de Bougnoul, de Bamboula, etc. Qui semble un peu montrer un petit peu comment les gens réagissaient. Jusqu'à présent, nous, on n'a jamais su un peu d'où ça venait. Mais nous pensons qu'il faut absolument que
la lumière soit faite, qu'on sache.
Absolument.
Alors concrètement, Eva, Nasser, éventuellement.
Je voudrais rajouter un petit peu par rapport à ce qu'a dit mon camarade Eva. Donc la position du CSP 59 par rapport au local du LCR est claire. Donc nous avons rendu public une déclaration là où on a dénoncé cet acte criminel. C'est à ce moment-là, justement, que la préfecture a passé à la vitesse supérieure. Donc des refus qui commencent à tomber et des arrestations. Justement, l'objectif de cet incendie, justement, c'est d'affaiblir justement le comité des sans-papiers.
Qui est gênant quand même, il faut dire, qui est gênant.
Bien
sûr.
Depuis
des années maintenant, chaque semaine, le mercredi à 18h.
Depuis 96. Donc c'est un travail, c'est une lutte sans relâche depuis 96. Ils sont locaux aussi. Donc le travail de la commission juridique se fait dans la rue. La commission juridique a occupé la place publique, la place de la République, pour justement recenser des nouveaux dossiers. Et la commission juridique du CSP 59, justement, a fait un travail aussi, la deuxième opération, la grande place de Lille. Donc, son local. Et je tiens à remercier aussi, de passage, la Ligue
communiste
révolutionnaire. donc je tiens à le remercier d'avoir quand même le courage de nous donner, malgré ces menaces, malgré le
danger.
Danger.
Je le disais tout à l'heure, les sans-papiers sont en première ligne dans la société française. Et beaucoup de Français l'ignorent. Hein, ils sont en première ligne d'un point de vue économique. Ils sont en première ligne également d'un point de vue politique. Donc justement, d'un point de vue politique, je pense qu'à la limite, vous êtes les mieux placés pour vous rendre compte des évolutions par rapport au problème de l'immigration. On nous a présenté Sarkozy et le nouveau gouvernement comme des gens qui étaient, disons, plus pragmatiques que les précédents. Concrètement, vous, sur le terrain, quand vous voyez les sans-papiers qui sont là, ici à Lille, D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces sans-papiers? Est-ce qu'ils sont nombreux? Quel est leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et est-ce qu'il y a des expulsions en ce moment? On veut savoir, est-ce qu'il y a effectivement des expulsions? Est-ce que le gouvernement actuel, il faut peut-être le dire, on l'a assez répété quand c'était les socialos, est-ce que le gouvernement actuel expulse des gens, notamment ici à Lille, ou cherche à les expulser?
Effectivement, bon, ce qu'on peut dire après cette entrée en matière, c'est que l'incendie, en réalité, visait la liquidation du CSP. Hein. Le CSP existe depuis plus de 7 ans maintenant, et je pense que le CSP joue aussi un très grand rôle au niveau de la Coordination nationale des sans-papiers. Parce que, pour le dire, tout le monde le sait, c'est le CSP 59 qui gère en fait la communication de la Coordination nationale des sans-papiers. Il faut être clair, les positions stratégiques du CSP pèsent énormément au niveau de la Coordination nationale des sans-papiers. Il faut dire aussi que lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 97, les CSP a perdu un peu en gros le soutien qui était proche un peu de partis de la gauche plurielle. Et la gauche a misé sur ça, en fait. On a cru qu'avec ça, on liquiderait le mouvement des sans-papiers. Lorsque Chevènement a sorti sa circulaire, plus de 150 000 sans-papiers ont été fichés parce qu'ils se sont présentés croyant qu'ils allaient être régularisés. Finalement, on a eu pas plus de 80 000 personnes régularisées. Et les autres sont restés dans l'ombre. Mais la gauche plurielle espérait pouvoir liquider le mouvement de cette façon-là. De fait, il n'est resté que quelques